Voilà, nous sommes donc dans la continuation de la première épître aux Corinthiens au chapitre 14. Donc nos réunions d'études, dont celle du mois d'août, a été supprimée pour des absences. Bon, voilà. Donc nous continuons ce qui a été commencé au mois de juillet. Et donc nous sommes dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 14. Pourquoi ce chapitre ? Parce que il y a dans plusieurs passages, il est parlé de l'édification de l'assemblée. Et notre sujet est donc qu'est-ce qu'une réunion d'édification ? Pourquoi l'appeler comme ça d'abord ? Et aussi en quoi consiste cette réunion d'édification ? Nous commencerons donc la lecture au verset 13. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour qu'il interprète. Car si je prie en langue, mon esprit prie, mais mon intelligence est sans fruit. Qu'est-ce donc ? Je prierai avec l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai avec l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu as béni avec l'esprit, comment celui qui occupe la place d'un homme simple dira-t-il l'amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait ce que tu dis ? Car toi, il est vrai, tu rends bien grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'assemblée, j'aime mieux prononcer 5 paroles avec mon intelligence, afin que j'instruise aussi les autres, plutôt que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants dans vos entendements, mais pour la malice, soyez de petits enfants, mais dans vos entendements, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, « C'est en d'autres langues et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple, et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. » De sorte que les langues sont pour signe, non à ceux qui croient, mais aux incrédules. Mais la prophétie est un signe, non aux incrédules, mais à ceux qui croient. Si donc l'assemblée tout entière se réunit ensemble, et que tous parlent en langue, et qu'il entre des hommes simples ou des incrédules, ne diront-ils pas que vous êtes fous ? Mais si tous prophétisent, et qu'il entre quelque incrédule ou quelque homme simple, il est convaincu par tous, et il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont rendus manifestes. Et ainsi, tombant sur sa face, il rendra hommage à Dieu, publiant que Dieu est véritablement parmi vous. Qu'est-ce donc, frère ? Quand vous vous réunissez, chacun de vous a un psaume, a un enseignement, a une langue, a une révélation, a une interprétation. Que tout se fasse pour l'édification. Si quelqu'un parle en langue, que ce soit 2 ou tout au plus 3 qui parlent, et chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Mais s'il n'y a pas d'interprète, qu'il se taise dans l'assemblée, et qu'il parle à soi-même et à Dieu, et que les prophètes parlent 2 ou 3, que les autres jugent. Et s'il y a eu une révélation faite à un autre qui est assis, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser un à un, afin que tous apprennent et que tous soient exhortés. Et les esprits des prophètes sont assujettis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les assemblées des saints. Que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Et si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur propre mari chez elles, car il est honteux pour une femme de parler dans l'assemblée. La parole de Dieu est-elle procédée de vous, ou est-elle parvenue à vous seule ? Si quelqu'un pense être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que les choses que je vous écris sont le commandement du Seigneur. Et si quelqu'un est ignorant, qu'il soit ignorant. Ainsi, frères, désirez avec ardeur de prophétiser et n'empêchez pas de parler en langue, mais que toute chose se fasse avec bienséance et avec ordre. Donc nous avions déjà commencé cette étude concernant ces différentes réunions, et donc nous avions choisi ce chapitre dans Corinthiens 14, parce que déjà dans les 12 premiers versets, il est parlé souvent de l'édification. Ce sujet est aussi abordé par ce fait particulier que, comme il est dit dans le chapitre premier de cet épître, l'apôtre s'adresse à l'assemblée qui est à Corinthe, et par l'esprit, il peut dire qu'ils ont été abondamment bénis, il ne leur manquait aucun don de grâce. Au chapitre premier, au verset 4, on peut commencer. Je rends toujours grâces à mon Dieu pour vous, à cause de la grâce de Dieu qui vous a été donnée dans le Christ Jésus, de ce qu'en toute chose vous avez été enrichis en lui en toute parole et toute connaissance, selon que le témoignage du Christ a été confirmé au milieu de vous, de sorte que vous ne manquez d'aucun don de grâce pendant que vous attendez la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà donc une assemblée qui est abondamment béni, qui a reçu beaucoup de dons de la part du Seigneur. Mais on voit dans le déroulement de cette épître qu'il y avait malgré tout plusieurs choses à remettre en place. Et donc il y avait ce don des langues. Et certains, s'appuyant sur ce que le Seigneur leur avait donné, parlaient en langue. Mais voilà, on comprend rapidement, on n'a pas lu les 12 premiers versets, mais chacun peut les relire, que si je parle en langue et que personne, dans une langue étrangère et que personne ne la comprend, on saisit bien sûr immédiatement qu'il n'y a pas d'enrichissement de chaque personne. Il n'y a pas cette parole qui descend dans la pensée, dans le cœur de chacun, pour que nous soyons dans une plus grande connaissance, dans une plus grande richesse de connaissance de la personne du Seigneur Jésus. Et donc ici, on voit qu'on parle beaucoup en même temps du don des langues. Mais on voit surtout qu'il y a cette répétition de l'édification, ainsi dans ce chapitre 14 au verset 3, « Mais celui qui prophétise parle aux hommes pour l'édification et l'exhortation » et la consolation. Voilà donc le but de ces réunions que nous avons, notamment le dimanche, mais autrefois on en avait même en semaine aussi, et puis avoir d'autres réunions qui se déroulent, par exemple lors de la visite d'un frère étranger, on peut parfois avoir, en dehors de l'horaire habituel, une réunion. Mais ces réunions sont là pour recevoir quelque chose de la prophétie, et cette prophétie parle aux hommes pour l'édification, l'exhortation et la consolation. Voilà donc le but de ces moments, et on peut rappeler sans doute pour les plus jeunes que ce mot d'édification vient bien sûr de cette pensée de la construction. Un édifice, comme il y en a tant dans ce monde qui ont été réalisés par les hommes, pour le réaliser, on a d'abord un fondement stable, et puis on vient y ajouter des matériaux, des briques, des pierres, des panneaux de béton comme il y a aujourd'hui, ou toutes sortes d'autres choses, du bois, et on construit comme ça un édifice, qui peut être une maison, qui peut être un bâtiment de bureau, par exemple. On voit ça partout. Et je pensais aussi à ce sujet, à ce que le Seigneur Jésus dit lui-même lorsqu'il interroge Pierre dans Matthieu 16. Et Pierre, poussé par l'Esprit, recevant cette révélation du Père, « Tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es le Fils du Dieu vivant. » Et le Seigneur de reprendre cette déclaration et de lui dire « Tu es Pierre. » Et sur cette déclaration, sur ce fondement que le Seigneur Jésus est le Fils du Dieu vivant, je bâtirai mon assemblée. Et voilà donc ce travail qui doit être réalisé par chacun des frères à qui le Seigneur a donné ce service de l'édification. C'est de continuer non seulement à ajouter des pierres à cet édifice, et sans doute y a-t-il aussi dans ce travail la part de l'évangéliste qui va chercher quelqu'un dans ce monde qui lui parle du Seigneur Jésus, et cette personne, cette âme se convertit, accepte le Seigneur Jésus pour sauveur et est donc quelqu'un qui s'ajoute à l'Église, qui s'ajoute à cet édifice merveilleux qu'est l'Église. Et puis il y a alors l'entretien, pourrions-nous dire, la consolidation, l'encouragement de toutes ces âmes par la lecture, la méditation de ta parole, ce que nous appelons donc la réunion d'édification. Voilà. Alors, il y a, à partir du verset 7 aussi, on peut relever aussi ces mentions qui sont données. De même, les choses inanimées qui rendent un son, soit une flûte, soit une harpe, si elles ne rendent pas de son distinct, comment connaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Car aussi, si la trompette rend un son confus, qui se préparera pour le combat? De même aussi, vous avez une langue, si vous ne prononcez pas un discours intelligible, comment saura-t-on ce qui est dit? Car vous parlerez en l'air. Donc voilà une comparaison qui est faite ici à différents instruments de musique qui rendent chacun un son différent. Et on peut distinguer quel est le son de cet instrument de musique, au-delà de ce qu'il apporte lui-même dans cette louange qui est jouée sur cet instrument. Mais alors, voilà, ce sujet est introduit pour dire, mais lorsque l'on parle, il faut aussi qu'on puisse entendre et qu'on puisse comprendre. Si je parle, il est parlé plus loin d'hommes simples, voire d'incrédules, qui seraient présents, il faut aussi que la parole qui est donnée puisse être compréhensible et comprise par cette personne. Si je parle un langage sophistiqué, je vais prendre un exemple, dans l'Église catholique, ils ont, pour chaque acte qu'ils font, eh bien, ils ont un mot qui a été construit sur le latin ou sur le grec, et voilà. Et on donne un nom à toutes ces choses. La plupart des gens ne comprennent pas ce que ça signifie, ou ne le savent pas. Alors si je commence à utiliser un langage particulier lorsque je peux présenter la pensée de Dieu, ben, il faut que les âmes qui sont présentes puissent comprendre ce que je dis. Sinon, eh bien, il est dit ici d'ailleurs, vous parlez en l'air. Autrement dit, c'est faire du vent, mais ce n'est pas quelque chose qui apporte de l'édification. Alors nous avons commencé donc la lecture au verset 13. Eh bien, il est rappelé de nouveau, en effet, que celui qui parle en langue, eh bien, qu'il interprète lui-même ou qu'il y ait un interprète qui puisse traduire, pour nous dire, ce langage pour que ce ne soit pas uniquement la personne qui parle qui soit instruite, parce que c'est l'esprit qui agit en elle, mais aussi que celui qui entend puisse apporter l'amen, comme il est dit dans, au verset 14, « Si je parle, je prie en langue, mon esprit prie, mais mon intelligence est sans fruit. » Et au verset 16, « Comment celui qui occupe la place d'un homme simple dira-t-il l'amen à ton action de grâce parce qu'il ne sait ce que tu dis ?» Mais si c'est vrai pour les langues étrangères, pour bien se faire comprendre, je pense qu'on peut étendre cette pensée aussi au langage que l'on emploie. Parce qu'il faut que ce que l'on dit puisse être compris. Et pour cela, il faut être, je pense, particulièrement conduit par l'Esprit-Saint, parce qu'on peut avoir chacun une préparation, une étude de la parole, entrer dans toutes les vérités de la doctrine et de du pastorat, de tout ce qui est nécessaire aux âmes, et se tenir dans cette étude que l'on a fait soi-même et ne plus être compréhensible par les âmes qui écoutent ce que l'on présente. Donc voilà un peu ces différents aspects qui nous sont aussi donnés à travers ce langage d'une langue étrangère.
Dans 1 Corinthiens chapitre 12, pour replacer le contexte, Dieu parle de chacun qui reçoit un don spirituel dans le corps. Donc chaque membre du corps reçoit une fonction de manière spirituelle, guidée par l'esprit. Et c'est très important de se souvenir que ce don de l'esprit n'est pas pour la personne qui le reçoit, mais pour le bien des autres. C'est-à-dire que je ne reçois pas un don spirituel uniquement pour mon propre bénéfice. Je reçois un don spirituel de la part de Dieu pour le bénéfice des autres. Et c'est très bien souligné dans le chapitre 13, où il est parlé de l'amour. Je vais donc, maintenant que j'ai reçu un don spirituel de la part de Dieu par l'Esprit, le mettre en pratique par amour pour les autres. Pas par amour pour moi, pas pour me mettre en valeur. C'est ce qui est clairement dit ici. Il est dit, si je parle toutes les langues des hommes, etc., mais que je n'ai pas l'amour, alors je résonne, je fais du bruit. Et puis au chapitre 14, on parle là d'un cas particulier, c'est le cas où l'Assemblée est réunie, lors de la réunion d'Assemblée. Il est répété, poursuivez l'amour, désirez avec ardeur les dons spirituels, mais surtout de prophétiser. Et prophétiser, ça veut dire parler de la part de Dieu. Un prophète, dans l'Ancien Testament, c'est quelqu'un qui parlait de la part de Dieu, qui donnait un message de la part de Dieu aux autres. C'est un peu différent dans le Nouveau Testament de ceux de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, les prophètes annonçaient des choses à venir, des événements à venir, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire, nous avons la parole complète, mais le principe reste le même. Un don de prophétie, c'est de parler aux autres de la part de Dieu. C'est-à-dire que quand j'entends un frère qui parle, s'il a véritablement un don de prophète, je n'ai pas l'impression que c'est ce frère-là qui me parle. J'ai l'impression que c'est Dieu qui me parle au travers de lui. Et ça touche le cœur. Parce que c'est Dieu qui parle au travers d'un prophète. Et Dieu ne parle jamais de manière incompréhensible. Le Seigneur Jésus disait lui-même dans l'Évangile, je te loue au Père, que tu aies caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les aies révélées aux petits-enfants. Dieu ne parle jamais de manière incompréhensible. Ce que Dieu dit, c'est pour se faire comprendre. Dieu parle toujours pour être compris et pour que nous mettions en pratique ce qu'il a dit. Donc, c'est ça l'édification. Dans le principe, nous sommes édifiés dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre âme, si nous voyons le Seigneur. Parce que c'est l'Esprit qui édifie. L'Esprit nous a été donné pour nous communiquer ce qui concerne les gloires de Christ. Donc, si quelqu'un parle et se présente comme prophète, et je ne vois pas le Seigneur au travers de lui, je le vois lui qui se met en valeur, ça ne peut pas être l'Esprit et ça ne peut pas être édifiant. L'édification, c'est quand on voit ce que Dieu veut nous dire au travers de l'Esprit, à propos de son Fils, son unique, celui qui a la première place et qui a la place centrale en toute chose. Encore une pensée concernant le parler en langue. On le trouve plusieurs fois dans le Nouveau Testament. À chaque fois, ce sont des langues existantes. Ceux qui ont reçu le don de langue, les disciples, les apôtres, qui avaient reçu le don de langue par l'Esprit-Saint, s'exprimer dans des langues que les gens comprenaient. On trouve ça dans Acte 2, par exemple. Et les gens entendaient les choses merveilleuses de Dieu dans leur propre langue. Ça n'a jamais été des langues incompréhensibles. Et on trouve plusieurs exemples dans la parole. C'est toujours des langues existantes qui sont différentes de l'hébreu, dans laquelle Dieu se révélait jusque-là, dans l'Ancien Testament. Et ici, à Corinthe, on voit beaucoup de confusion. Donc, c'est une véritable assemblée, mais il y a quand même beaucoup de confusion, beaucoup de choses à mettre en ordre. Une de celles-là, c'est de, justement de ne pas dire n'importe quoi et de se faire comprendre quand on parle au nom de Dieu. Et les instructions sont données clairement dans le chapitre 14. Et ensuite, il y aura la deuxième épître aux Corinthiens. Il n'est plus question de parler en langue dans l'assemblée. Cette question, elle a été résolue, selon ce qui est donné ici. Oui, encore. Et cette question de parler en langue concernant les choses de Dieu, c'était une preuve que Dieu se tournait vers les nations et plus seulement exclusivement vers les Juifs. On trouve ça dans le chapitre que nous avons lu là, avec la référence en Ésaïe. Donc, parler en langue, c'était un jugement envers les Juifs, et c'était une preuve pour les non-Juifs que Dieu, désormais, révélait sa grâce à tous les peuples. Et donc, parler en langue dans l'assemblée n'était pas nécessaire, surtout ici à Corinthe, où tout le monde parlait la même langue, c'était le grec. Et s'il y avait un visiteur qui parlait une autre langue, alors ben, qu'il y ait un interprète, ou autrement qu'il se taise.
Je vais lire un passage dans 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Suivant que chacun de vous a reçu quelque don de grâce, employez-le les uns pour les autres comme bon dispensateur ou administrateur en hôte de la grâce variée de Dieu. Si quelqu'un parle, qu'il le fasse comme oracle de Dieu. Jusque-là. Donc, simplement pour revenir sur ce que Hervé vient de dire, le don, Dieu le donne pour qu'il soit utilisé ou employé pour les autres. Donc, le but, c'est l'édification des autres, l'encouragement, l'exhortation, la consolation des saints. Et notre remarque, hein, c'est que celui qui reçoit le don doit l'administrer ou travailler comme administrateur de Dieu pour le bien de l'Assemblée. Et au sujet de l'enseignement sur les dons, je crois que c'est l'épître aux Éphésiens qui en parle. Pour les ministères, la personne même qui reçoit le don, c'est Dieu qui fait don à l'Assemblée, en fait. C'est lui-même, c'est un don. Mais le but ici, c'est non pas la personne elle-même, ce qui se voit dans la chrétienté. Et à ce sujet, aujourd'hui, peut-être pas en Afrique ou ailleurs, surtout aux États-Unis, peut-être dans certains milieux ici en Europe, les gens utilisent leurs dons supposés ou vrais pour dire qu'ils sont un ministère, en fait. Peut-être que ce n'est pas connu ici en Occident, mais en Afrique, aux États-Unis, c'est très fréquent. C'est-à-dire, à eux seuls, ils sont un service. Bon, c'est vraiment de l'hérésie. Mais ici, on voit que la personne qui reçoit un don, et chacun de nous a reçu un don, qui est assez divers, et l'enseignement sur les dons va plus loin, si on considère Romains 12, mais restant dans le cadre ici considéré de la réunion d'assemblée, le don, notamment la parole en assemblée, verset 11, si quelqu'un parle, qu'il le fasse comme oracle de Dieu. On parle comme de la part de Dieu. Voilà. Pour édifier les âmes. C'est-à-dire, on apporte la pensée du Seigneur, suivant le besoin, suivant les circonstances.
En effet, dans ces trois expressions du verset 3, qu'on avait déjà sans doute médité, mais c'est intéressant d'y revenir, il y a trois buts qui sont donnés à la prophétie, l'édification, l'exhortation et la consolation. Et donc, comme Roland vient de le dire, il y a un besoin dans l'assemblée, il y a une circonstance traversée par le rassemblement local, et là, on doit, par l'esprit, être conduit par l'esprit pour apporter l'édification, c'est-à-dire qu'il y a peut-être du découragement, qu'il y a peut-être un abandon de cette croissance de grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus. On se contente, on dit oui, on sait, mais voilà, on ne veut plus grandir, on ne veut plus approfondir les choses de Dieu. Et puis, il y a l'exhortation. Et là aussi, de temps en temps, il faut que... C'est le même mot en grec que « consolation », mais il y a deux significations. L'exhortation, c'est donc de venir encourager, de venir même, peut-être pourrions-nous dire, réveiller un peu une âme qui semble s'endormir dans sa vie chrétienne. Et donc, il faut exhorter, il faut encourager, il faut fortifier l'âme, mais lui redonner, en effet, cet exercice continuel que nous avons à avoir devant Dieu. Et puis, il y a la consolation. Et la consolation, nous en avons besoin tous, parce que il y a d'abord le fait que le Seigneur Jésus s'en est allé. Il était le consolateur pour Israël. Il dit lui-même, je vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit Saint, qui vous conduira dans toute la vérité. Et donc, nous recevons des consolations par simplement la lecture personnelle de la parole, par des conversations que nous pouvons avoir avec d'autres chrétiens. Et puis, il y a aussi cet exercice, alors, dans l'assemblée de la consolation, de venir donner l'enseignement qui apporte cette consolation. Par exemple, 1 Thessaloniciens 4, lorsqu'il est parlé de ceux qui se sont endormis, et l'Esprit de Dieu vient montrer que nous serons tous appelés à la rencontre du Seigneur en l'air. Et ce paragraphe se termine « Consolez-vous donc l'un l'autre par ces paroles ». Donc il y a des consolations qui sont présentes dans la parole de Dieu que nous devons traduire. Et donc là, en effet, l'action de l'Esprit, on a parlé d'un Corinthiens 12, on a parlé ici de cet exercice, est très important. Je dirais qu'on ne vient pas apporter ce qu'on a envie. On trouve un sujet qui est beau, qui est peut-être très bien structuré, agréable, mais est-ce que c'est vraiment cela qu'on a besoin ce jour-là dans l'Assemblée ? Il y a donc un exercice devant le Seigneur pour la personne qui se lève. Et souvent, on a dit d'ailleurs que toutes les choses qui se passent dans la réunion d'édification sont là pour nous montrer la pensée du Seigneur. Celui qui annonce un cantique, et on l'a dit même pour les réunions de culte, celui qui se lève ou qui parle pour la première fois dans le culte, il a une grande responsabilité, parce que c'est lui qui va déjà orienter la pensée de l'Esprit pour apporter l'adoration. Il en est de même pour la réunion. J'annonce un cantique, eh bien, c'est parce qu'il y a une pensée de l'Esprit en moi qui me guide vers les paroles qui seront énoncées par ce cantique. Et puis, suivra une action de grâce qui, sans doute, apportera encore d'autres pensées et qui donneront justement cette conduite, pour nous dire, de celui qui va se lever pour ouvrir la parole. L'Esprit lui donnera les passages à lire et lui donnera l'explication, l'exhortation, l'édification, l'exhortation ou la consolation. Je me souviens de manière pratique d'un frère dans une autre assemblée qui était de passage et il a demandé à ce qu'il y ait un moment de prière avant de commencer cette réunion d'édification. Et bon, voilà, il y a eu quelques prières qui ont été énoncées par quelques frères. Il y avait assez bien de frères différent de ce qui était là habituellement dans l'assemblée locale. Et puis, il y a eu un ou deux cantiques qui ont été annoncés. Et lorsque ce frère étranger s'est levé, il a dit, ben, voilà, le Seigneur nous montre par ce que nous avons entendu, par les prières, par les chants que nous avons chantés ensemble, ce que je dois dire aujourd'hui. Il l'a dit simplement, et pourtant, c'était un frère qui était reconnu, je vais dire, de façon internationale. Mais il a eu l'humilité de dire, ben voilà, je suis venu dépendant du Seigneur, et les choses qui ont été exprimées me montrent, et nous allons lire tel et tel passage, et voilà, c'était très encourageant d'entendre ce que notre frère avait présenté. Voilà un exemple pratique de ce que l'édification doit être dépendante absolument de ce que nous avons besoin. Parce que, je le dis, nous avons besoin, on le voit à travers ce chapitre, que non seulement l'assemblée qui entend, les âmes qui entendent, mais aussi celui qui parle, il est lui-même exhorté, encouragé, consolé, parce qu'il ne dit pas cela de par lui-même, il le dit par l'Esprit. Et combien de fois, dans d'autres circonstances, on a pu considérer qu'on voulait apporter quelque chose, et le Seigneur nous a montré qu'on en recevait tout autant que ce que nous voulions apporter.
Ici, dans les versets que nous avons lus au départ, que celui qui parle en langue prie pour qu'il interprète. Ça nous montre un principe très, très important, c'est que la traduction, on parle de traduction ici, pas dans le sens interprétation, plutôt dans le sens de traduction, que la traduction, elle est aussi importante que le message. Je veux dire, même, comme, on va dire autrement même, même en français, on va dire, ici en français, dans notre langue maternelle, un frère va avoir des pensées, disons par l'esprit, il faut qu'il puisse le traduire avec sa voix pour que les autres comprennent cette pensée. C'est très important. Donc, il y a le don de langue, mais il y a le don de traduire aussi. Et c'est aussi un don spirituel, de traduire des pensées spirituelles dans sa propre langue. C'est aussi quelque chose que nous devons faire par l'esprit, pour que ce soit compris par tous. Et c'est très important, donc, que celui qui s'exprime prie pour qu'il soit compris. C'est ça le principe. Et si ce n'est pas possible, par exemple, nous avons parfois de la visite de frères d'Allemagne, et il se peut qu'un frère d'Allemagne ne parle pas français, mais il y aura un autre qui va comprendre les pensées pour les traduire. Donc le principe de traduction est très important. Et c'est aussi par l'esprit qu'on traduit bien dans l'Assemblée. Vous savez, vous pouvez prendre un traducteur professionnel, s'il ne connaît pas les choses de Dieu, on va le mettre là, et il va ne faire que des erreurs, parce qu'il ne comprend pas la pensée de Dieu. Donc il ne suffit pas d'être traducteur, il faut comprendre les pensées de Dieu pour pouvoir les traduire. Et il y a encore un aspect très pratique que je vois ici. Donc si je prie en langue, mon esprit prie, mais mon intelligence est sans fruit. Voilà, si les autres ne comprennent pas ce que moi je dis en priant, il n'y a pas de fruit pour les autres. Et c'est ça le but, on l'a répété. Le but, c'est l'édification des autres, qu'il y ait du fruit dans le cœur et dans l'âme des autres en entendant ce qui est exprimé. Donc c'est sans fruit si ce n'est pas compris. Et j'ai même envie d'ajouter, il y a une question de langue, mais il y a une question aussi d'intelligibilité. Donc quand on parle en public, il faut aussi prononcer correctement, et pas trop vite, et pas tout doucement. Je pense que ça fait partie aussi. Je pense que l'Esprit Saint ne parle jamais de manière tellement rapide qu'on ne comprend rien. Il faut vraiment s'appliquer pour ce que l'on dit soit compris par l'audience. Alors on peut se trouver devant une audience variée, comme une assemblée, une église, où il y a des différentes générations, différents niveaux d'éducation, etc. Et il faut s'adapter à ça aussi, pour que ce soit compris, que les enfants puissent aussi en retirer quelque chose. Je pense que ça, au verset 15, où il est dit « Je prierai avec l'esprit, mais aussi avec l'intelligence », l'intelligence, c'est-à-dire la perspicacité qui s'applique au contexte. Voilà, on ne parlera pas de la même façon devant des incrédules ou devant un groupe de frères qui étudient la Bible depuis 20 ans. Et puis aussi chanter. Il faut que nous chantons pour que ce soit compris aussi. Il faut chanter, quand nous chantons, il faut qu'on comprenne les paroles que nous disons pour qu'on puisse intégrer la pensée qui est dans le cantique. Nous ne chantons pas simplement pour le plaisir de la musique, nous chantons pour émettre des pensées divines.
Un autre passage dans le livre de Néhémie, chapitre 8, page 362, version Darby. Livre de Néhémie, chapitre 8, et le verset 8. « Et ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens et le faisaient comprendre lorsqu'on lisait. » C'est en rapport avec ce que Hervé vient de dire, et en ajoutant le verset 19 de 1 Corinthiens 14, mais dans l'assemblée, j'aime mieux prononcer cinq paroles avec mon intelligence, afin que j'instruise aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Voilà, cette comparaison est bien édifiante. 5 contre 10 000, hein, que 10 000 paroles qui ne sont pas comprises, et 5 paroles bien comprises, dites selon le besoin ou la circonstance, et qui instruisent l'assemblée. Et c'est peut-être aussi le lieu de signaler que l'édification, ce n'est pas tant la durée de celle-ci, mais la qualité. Une édification de 5 minutes, peut-être 10 minutes, peut être plus efficace qu'une exhortation, une édification de 1h30 dans laquelle les âmes ou l'assemblée ne retirent pas grand-chose de consistant.
C'était d'autant plus nécessaire en ce temps-là. Nous avons, nous, une langue, notre langue française, qui est structurée, et nous avons l'écriture qui est faite avec des phrases. Et ces phrases elles-mêmes sont structurées par des parenthèses, des virgules, des points-virgules, etc. Ce qui nous permet déjà, dans notre lecture, de comprendre déjà mieux ce qui est écrit. Mais il faut savoir que dans d'autres langues anciennes, il n'y avait pas tout ça. Le texte était mis en continu. Et voilà, il fallait donc avoir justement cette compréhension de ce qui était écrit pour l'exprimer distinctement, comme Roland vient de le dire. Mais ça n'empêche que lorsque nous, ne fût-ce que la lecture de la parole de Dieu, et je répète ce qu'on nous a enseigné, et j'en fais l'expérience, c'est que lorsque nous sommes dans une réunion, la lecture de la parole de Dieu est très importante. Lire la parole de Dieu, la lire distinctement, la lire avec respect, pour que justement, c'est la parole de Dieu. Donc, bien sûr, il y aura un message qui va suivre, mais il ne faut pas que le message soit plus important que ce que la parole de Dieu dit. Il y a donc une manière de lire la parole de Dieu pour que justement, il y ait déjà cet impact sur le cœur, sur l'esprit de chacun, et on comprend déjà ce sujet qui va nous être présenté. Et il faut... Je parle même aux plus jeunes. Il faut apprendre à lire la parole de Dieu calmement, posément. Il vaut même mieux se trouver dans sa chambre et la lire à haute voix, parce que on entend ce que l'on dit et on entend justement, je vais dire presque cette musique de la parole de Dieu, cette façon dont le texte nous est présenté pour nous faire entrer dans cette pensée. Si on lit sans faire distinction de points, de virgules, de respiration, de choses comme ça, le texte n'a plus sa signification. Donc j'encourage les plus jeunes, eh bien, justement, à lire la parole calmement et à haute voix même, parce que ça permet justement de bien comprendre les choses. Et donc pour ceux qui se lèvent et qui lisent la parole, il en est de même. Il faut lire distinctement, prononcer les choses et respecter en effet ce déroulement de la pensée de Dieu qui nous est présentée par la parole.
Une petite précision, quand il est parlé d'intelligence, ce n'est pas l'intelligence humaine dont il est parlé ici, ce n'est pas la capacité intellectuelle que pourrait avoir quelqu'un. L'intelligence, il y a la sagesse et l'intelligence qui viennent de Dieu. La sagesse, c'est de comprendre la pensée de Dieu. Et l'intelligence, c'est de savoir comment la mettre en pratique. C'est le discernement de la pratique. Donc c'est dans ce sens-là qu'il est parlé d'intelligence aussi. C'est de chanter avec intelligence, avec discernement. Et c'est très important. Et il ne faut pas seulement que celui qui s'exprime ait ce discernement, c'est absolument nécessaire, puisque c'est de là que va partir le message. Mais on a lu là, il faut que même les plus simples... Ce n'est pas quelque chose de négatif d'être simple. Être simple devant Dieu, c'est-à-dire, c'est l'inverse de pluriel, c'est-à-dire d'être simple, de recevoir les choses telles qu'elles sont. Que le plus simple puisse dire « Amen ». Amen, ça veut dire « ainsi soit-il », ça veut dire « je suis d'accord ». Ça veut dire « j'adopte ce message, j'adopte cette pensée ». Et je pense que c'est juste pour les prières. Il faut qu'on puisse, à la fin d'une prière d'un frère, par exemple, dire « Amen » en ayant compris ce qui a été dit et en étant d'accord. C'est vrai aussi pour les messages, qu'à la fin d'un message d'édification, nous puissions dire tous « Amen ». Oui. Nous sommes d'accord, c'est la pensée de Dieu. Nous avons compris. C'est très important, ce petit mot « Amen » qu'on répète souvent. Il a beaucoup de force dans la parole de Dieu. Ainsi soit-il.
Je pense d'ailleurs, Roland, que dans ce chapitre de Néhémie que tu as lu, ce paragraphe se termine en disant « Et tout le peuple dit Amen ». Donc voilà, c'était pour... donner en effet cet amen. Il a aussi une importance, l'amen. Il en est parlé un peu ici, puisque l'homme simple dira-t-il l'amen à ton action de grâce. Donc, si on parle uniquement par l'esprit, par beaucoup d'expressions qui peuvent être élevées, peut-être, avec un vocabulaire riche de la parole de Dieu. Mais si l'homme simple ne comprend pas ce que cela veut dire, ben voilà, il va entendre. Et puis, je vais même dire, s'il prononce l'amen, le prononce-t-il vraiment dans la compréhension des choses qui ont été dites ? Maintenant, à l'inverse, je me permets cette remarque quand même, c'est qu'on manque souvent d'amen dans nos réunions, dans nos prières. On entend une prière, une action de grâce, une adoration. Il faut que l'assemblée s'associe, et elle s'associe aussi par l'amen, parce que si on ne le fait pas, qu'est-ce qu'on a fait pendant cette prière? On a écouté ou on a pensé à autre chose? On est distrait par quelque chose ou on est vraiment dans cette pensée de l'esprit? Alors l'amen doit être entendu. Il ne faut pas le crier, mais quand une assemblée tout entière dit amen, voilà, cela apporte aussi quelque chose. Je me souviens de notre frère Jean Soucé qui en parlait, de l'amen, parce que déjà ce temps-là, pourtant on était fort nombreux, et on sentait que l'amen se perdait de plus en plus. Et évidemment, il y avait différentes manières d'essayer de se justifier, vais-je dire. Et lui-même, devançant ces remarques qui pouvaient être faites, pouvait dire, mais dans une action de grâce, dans une prière, dans une adoration, il y a toujours quelque chose sur lequel vous avez été tout à fait d'accord, une pensée qui a été mise, qui était dans votre cœur à vous aussi. Alors dites amen. Il y a peut-être des choses qui ont été dites que vous n'avez pas perçues, que vous n'avez pas bien compris, vous n'étiez pas dans cette pensée-là. Mais il y a toujours quelque chose dans une action de grâce, dans une prière, sur lequel nous pouvons dire Amen. Alors il faut dire Amen, et pas dire, oh, bon, on n'a pas dit grand-chose. Il y a peut-être quelque chose quand même que le Seigneur a entendu, et il faut dire Amen.
L'Amen est très important, surtout quand on comprend que ces paroles viennent de Dieu. On peut parfois être hésitant à dire Amen quand on n'est pas sûr que ça vient de Dieu, même si c'est exprimé au nom de Dieu. Mais si on est convaincu que c'est par l'Esprit et que c'est basé sur les Écritures, c'est ce qu'il dit, vient de Dieu, alors pourquoi ne pas dire Amen ? Je pense que le principe, on le retrouve dans la fin du chapitre, où il est dit au verset 36, « La parole de Dieu est-elle procédée de vous ? Ou est-elle parvenue à vous seul ? Si quelqu'un pense être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que les choses que je vous ai écrites sont le commandement du Seigneur. » Voilà. Peut-être parfois on entend des choses, on n'est pas tellement d'accord, mais si c'est vraiment la pensée du Seigneur, nous devons l'adopter avec le cœur, par l'esprit. Ici, on en parlera peut-être dans la suite du chapitre, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, mais c'est la pensée de Dieu. Alors je dis Amen, et j'ajuste ensuite ma vie sur ce que j'ai entendu de la part de Dieu.
Alors dans ce verset 19, aussi, on peut recevoir cette instruction, mais dans l'assemblée, j'aime mieux prononcer 5 paroles avec mon intelligence, afin que j'instruise aussi les autres, plutôt que 10 000 paroles en langue. Alors, voilà, ça nous est arrivé, on en a l'expérience, de 10 000 paroles, parce que l'heure est arrivée, mais celui qui parle a oublié sa montre, sans doute, et puis il continue cette réunion pendant un temps qui dépasse largement le temps compté. 10 000 paroles, est-ce que quand on aura entendu la dernière, on se souvient encore de la première ? Parce qu'il y a ça aussi. Est-ce qu'on va vouloir présenter quelque chose qui devient tellement long et aborde tellement de sujets qu'on ne sait plus ce qu'on a dit ? Il en est de même des prières d'ailleurs. Les prières trop longues, est-ce qu'on sait encore ce qui a été dit en commençant ? Quel est vraiment le sujet ? Voilà, ce sont des exercices personnels, bien sûr, il n'y a pas de règle. On ne peut pas commencer à avoir un chronomètre pour savoir si on est dans le temps ou hors du temps. Mais ici, c'est bien expliqué, j'aime mieux prononcer 5 paroles. Voilà, c'est peu de choses, 5, c'est la mesure de l'homme, 5 doigts. C'est ce que l'on peut dire, et on le dit avec intelligence. Et parfois, et je le dis pour moi-même, parce qu'on a parfois tendance à faire de longues réunions, et puis, voilà, peut-être qu'une courte réunion serait plus efficace quant à l'exhortation, à la consolation et à l'édification, plutôt que 10 000 paroles. Évidemment, ici, de nouveau, ce sont des paroles dites en langue. Ça veut dire qu'on ne comprend pas. Tandis que les 5 paroles, elles sont dites avec l'esprit. C'est-à-dire qu'elles sont compréhensibles, elles sont reçues par les personnes qui écoutent et qui peuvent ainsi aussi se réjouir et remercier le Seigneur, parce que c'est aussi une part que nous avons à faire après l'édification, c'est d'en remercier le Seigneur.
Ici, au verset 20, on voit que l'apôtre Paul les compare à des petits-enfants. C'est pour nous aussi. Il ne faut pas que nous soyons comme des petits-enfants. C'est-à-dire, il parle ici dans le contexte de l'entendement, c'est-à-dire du discernement. Un petit-enfant ne sait pas toujours quand il doit parler ou se taire, ou arrêter de parler, ou commencer à parler, ou arrêter de se taire. Il manque de discernement. Il n'arrive pas à lire le contexte. Alors là, Dieu dit, au travers de l'apôtre, ne soyez pas des enfants dans vos entendements. Il y a une certaine maturité, et ce n'est pas la maturité uniquement de l'homme qui devient adulte, c'est la maturité spirituelle. Il nous est dit que nous avons reçu un esprit de puissance, d'amour et de conseil. L'esprit que nous avons reçu dans la deuxième épître aux Timothée, premier chapitre, c'est un esprit de conseil. Donc, cet esprit va nous guider, il va nous conseiller. Il est maintenant temps de parler. Il est maintenant temps de se taire. Il est maintenant temps de s'asseoir ou de se lever. C'est très important. C'est un esprit de sobre bon sens, à la note, il dit. Il y a ce bon sens spirituel qui fait que à un certain moment, un frère, par exemple, qui se lève pour donner un message en public, doit avoir ce discernement de l'esprit de s'asseoir avant d'avoir débité 10 000 paroles, par exemple. Et c'est très important de ne pas être comme des enfants qui ne connaissent pas les limites, à qui il faut toujours rappeler les limites. Ceux qui ont élevé des enfants savent que quand ils sont petits, il faut toujours répéter les limites parce qu'ils ne les comprennent pas. Il faut beaucoup de temps. Par contre, il est dit dans le même verset, « Soyez des petits-enfants quant à la malice. » Il faut rester d'un côté, il faut rester aussi avec un cœur simple, un cœur entier, un cœur vrai. Ne pas chercher, ne pas avoir des arrière-pensées de propre intérêt, de ceci, de cela. Donc restons simples, mais ayons du discernement spirituel.
Je pense que nous arrivons au bout de cette réunion. L'heure avance. Donc, on continuera ce chapitre 14 parce qu'on voit combien d'instructions il contient. Et on continuera donc le deuxième dimanche du mois d'octobre, toujours dans ce chapitre d'1 Corinthiens 14. Et voilà, on reprendra la lecture au verset 20, mais on en a déjà dit quelques mots. On redémarrera là.